Chapitre 2. Claire, sans réfléchir, se mit à courir vers la maison, louvoyant entre les invités qui, pour la plupart, restaient pétrifiés, le regard inquiet. Elle y entra par l'arrière et aperçut aussitôt une femme qui sanglotait sur l'épaule d'un serveur. Près d'eux, une des portes qui donnait sur le hall était ouverte. Claire nota machinalement qu'une clé faisant partie d'un trousseau était engagée dans la serrure côté extérieur. Elle pénétra dans la pièce. Trois hommes étaient arrivés avant elle. L'un d'eux, un chauve d'une quarantaine d'années, ressortait déjà. Il passa devant elle, l'air hagard, en murmurant « Mon Dieu! Mon Dieu !» Claire avança et, tout d'abord, ne vit qu'un petit salon dans les tons beige, sobrement meublé. Puis un des hommes s'écarta devant elle, et, baissant le regard, elle distingua sur le sol, près d'un fauteuil, un corps allongé sur le dos. Elle reconnut tout de suite Barbara Roussel. Elle avait les bras relevés autour de la tête et une jambe repliée dans une position bizarre. Comme ses longs cheveux blonds flottaient autour de son visage et que ses yeux, grands ouverts, exprimaient la stupeur, elle aurait ressemblé à un mannequin posant pour un magazine dans une attitude sophistiquée, n'eût été la grande tache rouge qui maculait sa robe jaune à hauteur de la poitrine. Le sang avait coulé sur le parquet clair où il avait formé, en séchant, des plaques brunes. Saisie, Claire restait prostrée devant le cadavre, les yeux rivés à ceux de Barbara, si bien qu'elle n'eut pas conscience du bruit qui amplifiait. D'autres personnes arrivaient, des cris fusés. Quelqu'un hurla: Ne touchez à rien! Allez chercher Monsieur Tillier! Claire fut saisie par le bras et tirée vers l'arrière. Docilement, elle suivit et se retrouva dans le hall. Des gens couraient dans tous les sens. Un serveur téléphonait sur son portable à la police. Son cerveau enregistrait machinalement ces détails, mais elle avait toujours devant les yeux Barbara gisant, les yeux vides. Puis se superposa à cette image celle de la jeune femme si pleine de vie, dans sa colère, un peu plus tôt dans le jardin, et elle frissonna nerveusement. Elle sentit un bras autour de ses épaules. Émergeant de sa rêverie, elle vit que c'était Roger. Ce devait être lui qui l'avait fait sortir du salon. Allons, ne reste pas là. Il l'entraîna dehors. Elle eut le temps d'apercevoir des policiers en tenue qui arrivaient en courant, puis elle ne distingua plus rien car ses yeux étaient noyés de larmes. Les premiers policiers présents sur les lieux y avaient été envoyés par le commissariat central de Lille, qui avait reçu plusieurs appels par le 17. Ils étaient affectés à la Madeleine, ville limitrophe de Lille et de Lambersart, et patrouillaient dans le quartier. C'est pourquoi ils se présentèrent à la Villa Louise très rapidement, alors que régnait la plus grande confusion. Des informations contradictoires circulaient parmi les invités, aussi bien sur l'identité de la victime que sur son état. Certains groupes du fond du jardin n'étaient même pas encore au courant du drame et pensaient que toute cette agitation aux abords de la maison était provoquée par l'arrivée du maire de Lille, qu'on avait à plusieurs reprises annoncée imminente. Guidés à leur descente de voiture par un serveur, ils se frayèrent un chemin dans le hall et parvinrent au salon. Un coup d'œil au corps sans vie de Barbara leur permit de comprendre la gravité de la situation. Ils entreprirent alors de dégager le lieu du meurtre afin de préserver, si c'était encore possible, les indices. Ce ne fut pas facile. Le salon, et surtout le hall, était encombré de femmes éplorées ou hystériques, et d'hommes qui prenaient l'air brave et jouaient déjà au détective, excités d'être les témoins d'un crime qu'ils pourraient raconter en se donnant le beau rôle. Tous étaient d'une inefficacité remarquable. Finalement, les policiers réussirent à refouler tout ce monde dans les jardins, ne gardant auprès d'eux que les quelques personnes utiles aux préliminaires de l'enquête. Il s'agissait de M. Tillier qui semblait dans un état second, de la femme qui avait découvert la victime, Mélanie Fougaille, dont le corps tressautait curieusement au rythme des sanglots qui la secouaient, et des tout premiers témoins. C'est ainsi qu'un policier alla chercher Claire dans le jardin, sous le regard médusé d'invités qui croyaient qu'on arrêtait déjà la coupable. Revenue à l'air libre, la journaliste avait recouvré une bonne partie de son sang-froid et de ses réflexes professionnels. Elle avait notamment regardé sa montre et constaté qu'il était 16h15. Lorsqu'elle entra à nouveau dans le hall, elle fut parcourue d'un léger frisson, mais elle respira profondément et c'est calmement qu'elle attendit les questions de celui qui paraissait le chef de la patrouille. Celui-ci se contenta de prendre son identité, il tiqua légèrement en apprenant qu'elle était journaliste, et de s'assurer qu'elle avait été l'une des premières à découvrir le corps. puis lui dit d'attendre dans un coin, car on aurait bientôt besoin de ses services. Claire, surprise par la brièveté de ce premier interrogatoire, s'assit sur une des chaises qu'on était allé chercher dans une autre pièce et qu'on avait installée dans le couloir pour les témoins. Elle se trouvait ainsi aux premières loges pour enregistrer consciencieusement les allées et venues qui se succédèrent dans l'heure suivante. En lectrice assidue de romans policiers, elle crut repérer des gens de l'identité judiciaire à leur appareil photo, des membres de la police scientifique à leur mallette pour les prélèvements, ainsi que le médecin légiste à sa trousse médicale. Certes, elle se trompa parfois, mais dans l'ensemble, elle n'avait pas tort. Tous ces enquêteurs, en effet, passèrent dans le salon, ainsi que d'autres qu'elle n'identifia pas, comme le substitut du procureur Paul Lemasson, qu'elle prit, au vu de sa longue figure triste et de son costume noir, pour un représentant des pompes funèbres, ou le lieutenant de police Frédéric Preux, de la brigade des homicides au SRPJ de Lille. Ce dernier, âgé de 30 ans, était grand, plus d'1,85 m sous la toise, mince, et plutôt beau garçon, avec un visage émacié qui n'était pas sans rappeler Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, la barbe en moins. Il était né rue Léonard Danel, dans le Vieux-Lille, de parents modestes. Et de ce fait, son enfance et son adolescence s'étaient déroulées presque uniquement dans le quartier haut en couleur de l'église Sainte-Catherine, rythmé par les baignades dans la Dole l'été, les virées à la Grande Ducasse sur l'Esplanade en septembre, les matchs de foot au Bois de Boulogne, près du zoo, toute l'année, et quand il faisait vraiment trop mauvais, les heures entières passées à lire gratuitement les livres, Grand Place, à la célèbre librairie Le Furet du Nord. Peu enclin aux études longues, il avait passé dès qu'il avait pu le concours de gardien de la paix. Une fois reçu, il avait exercé sans déplaisir pendant 7 ans, dans plusieurs commissariats, les fonctions du policier de base. L'enregistrement des différentes plaintes, l'enquête sur des délits mineurs, les factions devant les lieux publics. Cette vie routinière avait été bouleversée une nuit lors d'une patrouille avec son collègue, le brigadier Chaussois, quand ils avaient voulu contrôler une Golf qui avait brûlé un feu rouge. Dès qu'il avait vu les policiers dans son sillage, le conducteur s'était garé docilement et avait baissé sa vitre. Les policiers étaient descendus de leur voiture et s'étaient approchés de lui. Au moment où Chaussois lui adressait la parole, un deuxième homme, assis sur le siège passager, s'était penché et avait tiré sur les policiers avec un gros calibre. Chaussois avait pris la balle en pleine tête. Preux, qui se trouvait en arrière, avait été touché à l'épaule. Depuis cet épisode, il était devenu froid et distant, sans perdre pour autant ses qualités de patience et de maîtrise de soi qu'appréciaient ses supérieurs. Peu de temps après, ceux-ci lui avaient conseillé de passer le concours interne d'officier de police. Brillamment reçu, il avait demandé à rester à Lille et avait intégré la PJ. Quand il vint chercher Claire, toujours assise dans le hall, celle-ci commençait à trouver le temps long. Avec un sourire sans chaleur, Preux se présenta et lui indiqua ce qu'il attendait d'elle. Puisqu'elle était l'une des premières à être entrée dans le salon, elle pourrait confirmer que la scène du drame et la position de la victime étaient telles qu'elle les avait découvertes à son arrivée. Ils entrèrent dans la pièce, qu'occupaient encore bon nombre de policiers en train de prélever de mystérieux échantillons, et qui ne prêtèrent aucune attention à la journaliste. Il y avait un trousseau de clés sur la porte, dit Claire au moment où il franchissait le seuil. S'agit-il de celui-ci? Il est là un enquêteur qui lui remit un trousseau de 3 clés enfermées dans une pochette plastifiée. Oui, je reconnais le porte-clés, le champ en métal. Bien. À présent, essayez de vous souvenir précisément de ce que vous avez fait et vu. Je ne me suis avancé que de quelques pas, dit-elle à Preux qui se tenait à côté d'elle et guettait ses réactions. Je me suis arrêté à peu près ici. Claire se força à regarder de nouveau la morte et à chasser toute émotion. La concentration lui faisait froncer les sourcils. Le corps se trouvait dans cette position, étalé sur le dos. À vrai dire, mon regard a surtout été accroché par les yeux grands ouverts du. Elle ne put se résoudre à dire cadavre. De Mademoiselle Roussel, dit-elle en déglutissant. Il me semble qu'elle avait la jambe repliée comme maintenant, mais je ne puis en jurer. Vous savez, poursuivit-elle en se tournant vers l'officier de police, je ne suis pas resté longtemps. J'ai vu le sang sur sa poitrine et sur le plancher, et puis. Là encore, elle fut réticente à avouer qu'elle avait pleuré. Et puis un ami m'a entraîné dehors. Excusez-moi, ajouta-t-elle avec une grimace de dépit. Je m'aperçois que je ne vous suis pas très utile. N'en croyez rien. Tout témoignage nous est précieux, dit-il comme s'il récitait une leçon. N'avez-vous rien remarqué près de la victime? Claire fouilla de nouveau sa mémoire. Avait-elle vu quelque chose? Elle aurait bien voulu répondre par l'affirmative, ne serait-ce que pour faire plaisir à ce policier dont le regard inquisiteur la mettait mal à l'aise. Mais par honnêteté, elle dut convenir qu'elle n'avait rien noté de spécial. Je ne veux pas vous influencer, mais comme vous n'en parlez pas de vous-même, je vais être plus précis. N'avez-vous pas vu un badge comme on portait chaque invité? Sur Barbara? Non, je suis formel. Elle ne portait pas de badge. Je n'ai pas dit sur Barbara. Et comme elle le regardait sans comprendre, il ajouta d'assez mauvaise grâce. Nous avons trouvé près de la victime un badge au nom de Claude Gauvin. Claire ne réfléchit que quelques secondes. Non, si je l'avais vu, je m'en souviendrais. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis focalisé sur le visage de Barbara. Et puis, je ne pouvais peut-être pas le voir s'il se trouvait derrière ou sous le fauteuil. Le ton était mi-interrogatif, mi-affirmatif. Preux esquissa un sourire. Cette fille s'avérait habile pour tenter de lui soutirer des renseignements. Heureusement, avant d'aller la chercher, il avait jeté un coup d'œil sur la fiche sommaire rédigée par le policier de patrouille lors du premier interrogatoire et remarqué qu'elle était journaliste. Ce sera tout pour le moment, mademoiselle Louvier, dit-il d'un ton moins sec qu'il ne l'aurait souhaité. Vous pouvez rentrer chez vous, à moins que vous ne désiriez rencontrer un psychologue. On m'a dit qu'il y en a un qui allait arriver, si ce n'est déjà fait. Ce ne sera pas nécessaire, merci. Claire regagna le jardin où plusieurs policiers recueillaient les dépositions des invités. Étant donné le nombre de ces derniers, il ne s'agissait que d'une audition sommaire. Chacun donnait son identité, ses coordonnées précises et indiquait où il se trouvait au moment où avaient retenti les cris. Ensuite, la personne pouvait partir. Elle serait convoquée le lendemain ou le surlendemain dans les locaux du SRPJ pour un interrogatoire plus détaillé en fonction des besoins de l'enquête. Claire décida de s'en aller. Elle avait senti, à l'attitude fermée de l'officier, qu'elle aurait du mal à obtenir davantage de renseignements ici. De toute façon, elle avait largement de quoi faire un premier article. La grande grille était fermée. Les gens sortaient par la petite porte sur le côté. Claire se retrouva derrière un couple d'une quarantaine d'années. Quand je vais raconter cela demain au bureau à Pierrard, ils vont en tirer une tête, disait l'homme sans cacher sa jubilation. À ses côtés, la femme éclata de rire. Appelle-le déjà ce soir et branche-le au parleur du téléphone, que j'en profite. Claire les regarda s'éloigner, pensive, puis partit de l'autre côté. La tension retombait. Elle se sentait fatiguée et choquée. Au fond, peut-être aurait-elle dû accepter de rencontrer le psychologue. Rentrée chez elle, elle n'appela personne, rumina des idées noires et se coucha en ayant toujours devant elle les yeux grands ouverts de la morte.